La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. En 2004, la France généralise le dépistage organisé du cancer du sein avec pour double objectif de réduire la mortalité et d'améliorer l'information et la qualité des soins. Quelques années plus tard, une controverse s'est développée sur l'intérêt et les risques liés au dépistage par mammographie, avec le surdiagnostic et le surtraitement qui pourraient concerner la moitié des cancers dépistés. Avec 49 000 nouveaux cas par an en France, 12 000 décès chaque année, le cancer du sein est le premier cancer féminin. En quoi consiste un dépistage? Comment aborder cette question de façon éclairée? C'est ce que nous allons voir avec mes invités qui vont répondre dans un instant à toutes vos questions. Et nous attendons vos messages dès maintenant sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui à la une, nous partons dans le massif du Mont Blanc étudier le glacier d'Argentière.
Oui, car il est en ce moment le siège d'une expérience scientifique de grande ampleur pour comprendre la dynamique de ces glaces. On monte à 2400 mètres d'altitude avec le glaciologue Florent Gimbert dans un instant.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons le rendez-vous science grand format de France 5 avec un documentaire consacré ce soir à la cité perdue de Ramsès II. Fanny Boyon réalise notre tête au carré préparée par Lucie Sarfati avec Hannibal Ouachi.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Voilà, le dépistage du cancer du sein, dossier dans un instant avec mes invités que je salue, la cancérologue Suzette Delaloge, l'épidémiologiste Philippe Autier et le médecin généraliste Dominique Dupagne. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue Suzette Delaloge. Est-ce qu'il y a un problème de surdiagnostic avec le cancer du sein aujourd'hui?
Oui, il y a clairement un problème de surdiagnostic avec le dépistage du cancer du sein tel qu'il est fait actuellement par mammographie.
Il faut modifier les choses?
Oui, il faut modifier les choses.
Et pourtant, vous êtes favorable au dépistage?
Je reste favorable au dépistage tel qu'il est actuellement en l'absence de meilleures solutions, mais je pense qu'il faut passer à une meilleure solution. Oui.
Philippe Autier, quelle est votre position, vous, en tant qu'épidémiologiste, sur cette question?
Je crois que malheureusement, le dépistage par mammographie n'a pas de rôle sur les changements de mortalité par cancer du sein. Tous les changements qu'on observait depuis 10 ans, c'est essentiellement l'amélioration des traitements. Alors d'un côté, pas beaucoup d'effets, impact de la mammographie, dépistage sur la mortalité par cancer du sein. Et de l'autre côté, beaucoup de surdiagnostic. C'est difficile d'encore soutenir ce genre de position.
On va en débattre, hein, parce qu'évidemment, vous n'êtes pas sur la même ligne du tout sur cette question. Dominique Dupagne, en tant que médecin généraliste, comment vous informez justement vos patientes sur l'intérêt ou non du dépistage? C'est la question qui
Moi, je crois surtout à l'information. Je pense que les gens doivent pouvoir décider, en tout cas ceux qui veulent, pas tous. Il y en a qui ne veulent pas, qui disent « qu'est-ce que vous feriez à ma place, docteur ?» Mais pour ceux qui veulent des informations, je crois que ce qui est très important, c'est que les gens aient des informations éclairantes, objectives, qui leur permettent de se dire « bon, bah, écoutez, moi, je crains plus le surdiagnostic, je crains plus le cancer, donc je vais faire ou pas faire de mammographie », et pas des slogans débiles du genre « tous les gagnants ont tenté leur chance ». Vous voyez, il faut vraiment des choses qui permettent de réfléchir et de se poser les bonnes questions.
Eh bien, on va se les poser ensemble dans un instant et vous allez répondre aux questions, aux attentes aussi des auditrices et des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. Écoutez la glace s'écouler, le projet Resolve sur le glacier d'Argentière est aujourd'hui à la une de la science.
Ici, on est au sommet des Grands Montais. C'est le départ des pistes mythiques des Grands Montais, ce qu'on appelle la piste du point de vue, qui donne accès au glacier d'Argentière.
Tu prends les crampons tantôt, hein? Tu mets un filet orange là, parce que la neige elle fout le camp, mais si on arrive à la retenir un peu là...
Voilà, depuis le 26 avril, le glacier d'Argentière dans le massif du Mont Blanc est le glacier le plus surveillé de la planète. Un groupement de chercheurs suisses et français y ont installé sur ses pentes donc un arsenal de capteurs de précision pour tenter de comprendre la fine mécanique de son glissement. Et Axel, pour discuter de ce projet nommé Resolve, on accueille notre invité.
Oui, en duplex depuis les locaux de France Bleu Isère, nous recevons le glaciologue et sismologue Florent Gimbert. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes chercheur pour le CNRS à l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble et vous avez piloté cette expérience, 12 capteurs enfouis dans la roche du glacier, sous le glacier, une centaine en surface, un radar et des balises GPS. Alors quel est le but de cet arsenal technologique, on peut le dire comme ça, hein?
Ouais, c'est vrai, c'est un petit peu un lourd arsenal. L'objectif, c'est vraiment d'écouter le glacier partout où on peut l'écouter et surtout essayer d'englober tout son volume pour comprendre comment il se comporte et notamment cibler les processus qui contrôlent sa dynamique à partir donc de l'étude fine du champ d'onde qui génère, d'onde sismique.
Alors quelles sont les grandes questions auxquelles on n'a aucune réponse concernant l'écoulement d'un glacier qui sont des objets très étudiés quand même par ailleurs?
Oui, alors ça fait longtemps qu'on étudie l'écoulement des glaciers et leur fonte. Ce qui se passe, c'est que en s'écoulant, en fait, les glaciers amènent de la glace qui est froide, donc dans des zones froides, vers des zones chaudes. Et donc, plus le glacier s'écoule vite, en réalité, plus il amène rapidement de la glace vers des zones où elle va fondre. Et donc, en globalité, plus le glacier va fondre rapidement. Donc, il est vraiment essentiel de comprendre la dynamique. On en comprend une certaine partie, notamment les aspects de déformation de la glace à l'intérieur du glacier, qui en fait peuvent se décrire assez classiquement avec des lois de viscosité, qui font intervenir la viscosité de la glace. Mmh. Mais il y a une deuxième composante qui, en fait, est plus incertaine et qu'on souhaite vraiment étudier spécifiquement dans ce projet, qui est la capacité du glacier à glisser sur son socle rocheux, donc à cette interface entre la glace et la roche. Quels sont les processus qui vraiment contrôlent ce glissement et comment ces derniers, en fait, varient à la fois dans le temps. C'est pour ça qu'on a des observations qui sont très résolues temporalement, mais aussi spatialement, puisqu'on sait qu'il y a des variations spatiales conséquentes et qu'on veut aussi étudier à partir de ce réseau à assez grande échelle.
D'où la partie innovante de votre expérience, c'est tous ces sismomètres que vous avez installés. La glace tremble alors en continu quand elle s'écoule?
Oui, en fait, elle tremble et puis elle tremble de plusieurs manières. En fait, on voit des petits signaux très impulsionnels, c'est-à-dire des signaux très court terme, en fait, qui s'apparentent à des phénomènes de rupture, qui en fait sont très similaires à des séismes dans la croûte terrestre. Et ces événements, ils sont très courts, assez petits, mais il y en a plein. Et il y en a surtout beaucoup à la base, donc ce qui veut dire que à la base des glaciers, il y a un glissement qui est pas seulement continu et stable, il y a aussi des instabilités qui se créent. Et tout l'enjeu, c'est de comprendre si ces instabilités peuvent contrôler ou pas le glissement global du glacier. Et puis il y a d'autres types de signaux qui sont plutôt plus continus dans le temps, en fait, qu'on appelle bruit sismique. Et qui, eux, dans le cas des glaciers, sont majoritairement contrôlés par les écoulements fluides, c'est-à-dire l'eau qui va en fait percoler à l'intérieur du glacier et puis s'écouler à la base du glacier. Et en fait, on les entend à travers les ondes sismiques, un peu comme on entendrait l'eau s'écouler dans une rivière, lorsqu'on se promène à côté. Et l'idée là, à partir de ce bruit ambiant, c'est de relocaliser les sources de bruit d'écoulement fluide et de voir comment ces dernières varient dans le temps et affectent le glissement basal, puisqu'on sait que l'hydrologie a un rôle prépondérant dans la lubrification de l'interface entre la glace et la roche, et donc dans le contrôle du glissement sous-glaciaire.
Donc Florent Jambert, encore une semaine d'expérience, c'est ça? Et ensuite, ce sera la récolte des données?
Oui, c'est ça. Alors, on a eu un mois d'acquisition continue, donc depuis le 26 avril, et puis la semaine prochaine, on va récupérer tous les instruments sur le terrain.
Florent Jambert, on sait que le mouvement des glaces, par exemple en Arctique, est important pour estimer la montée des eaux due au réchauffement. Est-ce que votre expérience va nous aider à faire des modèles climatiques plus sûrs, plus précis?
Alors en fait, c'est l'idée, hein, à plus long terme. L'idée vraiment dans cette manip, c'est d'aller caractériser finement des processus pour construire ensuite des lois physiques qui nous permettent de les représenter dans des modèles. Et effectivement, la finalité, c'est en fait un travail de collaboration avec des gens qui font du modèle plus grande échelle sur les calottes polaires, que ce soit en Antarctique ou au Groenland, et pour lesquels on a besoin de lois physiques assez bien contraintes. Seulement, sur ces endroits-là, on a beaucoup de difficultés à faire de l'observation ciblée comme on peut en faire chez nous dans les Alpes. Donc l'idée, c'est de contraindre des processus dont on sait qu'ils opèrent au pôle, de manière à construire des lois physiques qu'on peut appliquer dans ces zones et donc mieux représenter la modélisation des glaciers, leur devenir dans le cadre du changement climatique et leurs effets sur les changements d'élévation des niveaux marins.
Une dernière question, vous êtes monté à 2400 mètres d'altitude avec 20 scientifiques pour cette expérience. Certains n'avaient jamais mis les pieds sur un glacier. Est-ce que vous vous êtes entraîné avant?
Alors, il y en avait dans l'équipe qui était assez habitué à aller sur les glaciers. Effectivement, il y en avait d'autres qui n'avaient jamais mis les pieds sur les glaciers. Pour ça, on a fait appel à des guides, en fait. Donc, ouais. Eux, ils ont pu un petit peu former les gens sur place quand ils sont arrivés et puis s'assurer que pendant l'instrumentation, on faisait les choses, disons, en toute sécurité.
Merci en tout cas Florent Jambert pour ces précisions. Vous êtes donc glaciologue et sismologue à l'Institut des géosciences de l'environnement. Et merci aux équipes de France Bleu Isère qui nous ont permis ce duplex depuis Grenoble. Merci à vous et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, toujours dans les glaces, le programme international Ice Memory a annoncé hier sa nouvelle mission, extraire des carottes des glaciers les plus exposés justement au réchauffement climatique pour les stocker en Antarctique. L'objectif étant de faire du sixième continent la première bibliothèque mondiale d'archives glaciaires. Les carottes de 150 à 240 mètres seront prélevées dans les montagnes de Sibérie et du Caucase, analysées en laboratoire et stockées. Pour les glaciologues, l'étude fournira de précieuses informations sur plusieurs aspects liés justement aux changements environnementaux. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les suppléments en vitamines et minéraux les plus connus n'apportent aucun bénéfice conséquent pour la santé. C'est une étude réalisée par l'hôpital Saint-Michel à Toronto qui démontre que les apports en calcium ou en vitamines C et D n'ont aucun effet bénéfique sur la prévention des risques cardiovasculaires, crises cardiaques ou AVC. Seule la vitamine B9 aurait montré des effets positifs. Et puis comment font les phasmes, ces insectes qui ressemblent à des branches d'arbres, pour se propager dans la nature? Eh bien la réponse est simple, en se faisant manger par les oiseaux. C'est ce qu'explique une équipe de chercheurs japonais. Les biologistes ont découvert que les œufs des insectes sont particulièrement résistants à la digestion et peuvent éclore une fois rejetés dans les excréments de l'animal. Ce qui rappelle la méthode de dispersion employée par les fleurs, un comble pour cet insecte morphologiquement très semblable à une plante. Allez, le dépistage du cancer du sein, dossier débat dans un instant.
Et
c'était General Electric à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
La réalité scientifique autour du dépistage du cancer du sein serait moins rose que la promotion dont il fait l'objet. Que faut-il penser du dépistage organisé de ce cancer? C'est la question qu'on se pose cet après-midi dans l'émission. On va essayer d'y voir clair et de répondre le plus précisément possible à vos messages qui arrivent nombreux sur le site de l'émission. On va essayer de ne pas vous inquiéter d'ailleurs, de parler clairement de ce que la science nous dit à ce sujet et de se forger une opinion à l'issue de cette tête au carré. Suzette Delaloge, vous êtes cancérologue et spécialiste du cancer du sein à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Philippe Autier, vous êtes-vous médecin épidémiologiste, vice-président de l'IPRI, c'est l'Institut International de Recherche et de Prévention de Lyon. Et puis Dominique Dupin, vous êtes médecin généraliste et chroniqueur, bien sûr, dans la tête au carré, avec donc les questions qui arrivent déjà nombreuses sur le site de l'émission. Et on va vous répondre dans un instant. Dominique Dupin, vous avez abordé plusieurs fois la question du dépistage du cancer du sein dans vos chroniques, avec cette question centrale. Est-ce qu'on peut recommander aveuglément ce dépistage à toutes les femmes? C'est absolument essentiel de se poser la question aujourd'hui.
Bah oui, on est à une période où les gens veulent qu'on les informe, donc la question est, quels sont les avantages, les bénéfices et les risques de ce dépistage? Et à partir de là, bah, on peut se décider.
Suzette Delaloge, en tant que cancérologue, est-ce que c'est une question que vos patientes vous posent beaucoup? Ou est-ce qu'elles y vont plutôt confiantes?
À vrai dire, moi je suis plutôt exposée à des personnes qui ont déjà un cancer du sein et qui se posent beaucoup de questions existentielles sur pourquoi j'ai ce cancer. Et ma problématique est plutôt d'avoir la difficulté à leur dire pourquoi, parce qu'en général on ne sait pas. Mais la partie dépistage m'intéresse beaucoup. Moi j'ai plutôt fait depuis longtemps du suivi de femmes à haut risque, qui sont des personnes pour lesquelles le dépistage a une valeur absolument majeure, en particulier en raison de risques génétiques.
Ouais, c'est peut-être là qu'il faut faire la distinction tout de suite d'ailleurs, Dominique, entre le diagnostic et le dépistage, puisqu'on va bien parler du dépistage chez les femmes qui a priori n'ont pas déclaré de cancer.
Il y a trois choses. Il y a le diagnostic, c'est-à-dire j'ai un symptôme, j'ai une boule, j'ai senti quelque chose, mon médecin a palpé quelque chose, on fait des examens pour voir ce que c'est, on n'est pas du tout dans le dépistage, on est dans le diagnostic. Ensuite, il y a le dépistage chez Madame Tout-le-Monde qui n'a pas de facteur de risque particulier, qui est l'objet essentiel de ce débat. Et il y a des femmes à très haut risque qui sortent complètement du champ de notre discussion.
Voilà, pour moi, en tout cas. Exactement, c'est pour ça qu'il faut être clair dès le départ, mais on répondra évidemment à toutes les questions. Philippe Autier, en tant que médecin et épidémiologiste, comment vous abordez justement, vous, cette question alors?
La question du dépistage.
Du dépistage, bien sûr.
Dans les années 90, j'ai beaucoup travaillé en faveur du dépistage, parce que j'étais à Bruxelles, ma ville natale, et à essayer de favoriser, de monter donc le dépistage organisé dans cette ville. Et on partait évidemment du principe que le dépistage, s'il fonctionne, vous devrez avoir moins de femmes avec des cancers avancés. C'est les cancers avancés qui tuent. Et le dépistage, son rôle, c'est de diminuer le nombre de cancers avancés. Quand j'ai rejoint le Centre international de recherche sur le cancer en 2005, et que nous avons entrepris plein de recherches sur les registres du cancer, on a constaté que là où il y avait beaucoup de dépistage depuis 20-30 ans, les cancers avancés du sein, les femmes avec cancer avancé du sein, n'avaient en aucun cas diminué. Donc il y avait une persistance au cours du temps du nombre de femmes avec des cancers avancés du sein, tout comme si le dépistage n'avait jamais rien fait. Il y avait donc une terrible contradiction, je dirais, entre les objectifs du dépistage et les résultats. À côté de cela, apparaissait de manière de plus en plus manifeste qu'entre un tiers et 50% des cancers du sein dépistés, j'ai bien dépisté par la mammographie, relevaient du surdiagnostic, c'est-à-dire des petites tumeurs, en général, des tumeurs in situ, qui ressemblent sous le microscope à des cancers, mais qui n'évoluent jamais, qui ne deviennent jamais symptomatiques.
La moitié
entre un tiers et la moitié des cancers dépistés, je dis bien. Oui, ceux qui sont dépistés à la mammographie. C'est en fait, en tout cas, les derniers chiffres que nous avons publiés, qui sont publiés par beaucoup d'équipes pour l'instant, où là, on a un véritable problème de femmes à qui on trouve ces tumeurs. Ces tumeurs ne vont jamais leur causer de symptômes ou de problèmes pendant la vie, mais malheureusement, elles subissent un traitement pour ces tumeurs, dont parfois des mastectomies. Oui. Le taux de mastectomie actuellement en France et dans les pays européens n'a pas diminué depuis le début du dépistage, ce qui est évidemment pas tout à fait inquiétant. Étant dans la mesure où le dépistage devrait diminuer la chirurgie agressive.
Pas de baisse de mortalité
et... La baisse de mortalité par cancer du sein est très importante. Ouais. Il faut dire que dans un pays comme le Royaume-Uni, depuis 1990, cette baisse d'à peu près 40%, d'à peu près 30% en France. Donc c'est très très important la baisse de mortalité. Maintenant, à quoi est-elle due? Eh bien, nos analyses, tout est dû quasiment au traitement, à l'amélioration de la chirurgie, la chimiothérapie, etc. D'ailleurs, ces baisses de mortalité ont commencé bien avant que on aurait pu espérer un quelconque effet du dépistage.
Suzette Delaloge, le cadre est posé hein, de cette discussion. Est-ce que face justement à ces observations, il faut continuer à se faire dépister alors que des femmes justement subissent des interventions souvent inutiles?
Alors en fait, il y a plein de problématiques associées, donc on rentre dans tout à la fois.
Ouais.
Donc on est d'accord, la mortalité baisse. Dans les dernières estimations qui ont été publiées récemment, il semble que la baisse de mortalité soit attribuée pour 30 à 40% au dépistage en 2012 versus le reste au traitement. Après, bon, c'est une affaire de chiffres, sont des données plutôt américaines, mais peu importe. Donc le dépistage, en tout cas, n'a pas un rôle de 100%. Il a un rôle qui a régressé au cours du temps en raison de l'amélioration des traitements. Mais attention, les traitements restent très lourds. Et le modèle idéal, qui est le modèle de base du dépistage, qui est en fait, si on découvre une tumeur plus tôt, les traitements seront moins lourds, les guérisons seront plus importantes, reste un modèle qui est potentiellement très intéressant, qui existe dans beaucoup d'autres domaines, etc. En termes de surdiagnostic, chez les femmes dépistées, les chiffres sont d'interprétation très variable selon les experts, on va dire.
Mmh.
Et moi, ce que j'ai retenu de toutes les discussions internationales, c'est plutôt autour de 10-15%. Et les intracanalaires en dépistage, c'est 15-20% en France, par exemple. Mon grand problème à moi, c'est en tant que cancérologue, aujourd'hui, bien sûr, si une femme a un cancer dépisté, on ne peut pas lui dire si c'est un cancer surdiagnostiqué ou pas.
Eh oui.
C'est-à-dire, ils se ressemblent tous. C'est impossible de savoir lesquels vont être évolutifs ou non.
C'est-à-dire qu'on peut avoir un cancer et qu'il n'évolue pas, en fait.
Absolument, absolument. L'autre problème, c'est que, effectivement, les stades au diagnostic diminuent moins que ce qu'on attendait. Je suis d'accord. Je dirais pas qu'ils diminuent pas, je dirais qu'ils diminuent moins, peu importe. Mais quand même, si on regarde des pays qui, aujourd'hui, sont des pays en voie de développement, assez développés, moyennement développés, on va dire, Amérique du Sud, ou qui n'ont pas de dépistage systématique de mammo, mais qui en font quand même, mais qui ont du dépistage clinique, on a des taux de stades avancés qui sont infiniment plus élevés que
donc
les nôtres.
Donc plus tardifs, hein, des dépistages beaucoup plus tardifs lorsque la maladie est déjà déclarée.
Je pense qu'on a des problèmes de reach. C'est-à-dire notre dépistage, il est sûrement excessif. Il est sûrement excessif pour beaucoup de personnes.
Mm-hmm.
On aurait été intérêt à évoluer. En plus, il ne couvre pas toute la population. Avant 50 ans, il y a un vide. Après 74 ans, il y a un vide alors que l'incidence est très élevée. C'est très injuste, le dépistage tel qu'il est actuel.
C'est-à-dire que le dépistage organisé, aujourd'hui, il cible les femmes à partir de 50 ans.
Entre 50
en France,
et 74 ans.
Pourquoi d'ailleurs cet âge de 50 ans?
Parce que c'est là que c'est rentable. En dessous, en fait, le rapport bénéfice-risque semble moins bon.
C'est la seule raison pour laquelle on a posé cet âge à 50 ans, Dominique Dupagne, ou pas?
C'est tout simplement parce que c'est là qu'il y a les études qui sont les plus convaincantes, entre guillemets, pour montrer qu'il y a un bénéfice du dépistage par rapport au risque. Parce qu'on est toujours dans le rapport bénéfice-risque. Hein. Donc, je voudrais revenir sur le terme de surdiagnostic qu'on n'a pas bien explicité. On parle aussi parfois de faux positifs, notamment dans la brochure de l'INCa. Le faux positif, c'est on regarde la maladie, on dit c'est un cancer, alors que c'est pas un cancer. C'est pas pareil. Bon, ça, c'est, on demande à un gars avec un microscope de dire est-ce que c'est orange foncé ou est-ce que c'est rouge. Et ben, entre les deux, il y a un marécage assez difficile et on met beaucoup d'orange foncé dans le rouge parce qu'on est forcé.
Ouais.
Ça, c'est le faux positif. C'est-à-dire, on se trompe, on dit cancer quand il n'y a pas cancer. Mais le surdiagnostic, c'est autre chose. C'est le fait que c'est un vrai faux cancer. J'aime bien cette expression.
Un vrai faux cancer,
qu'est-ce
faut
que
nous
ça
éclairer.
Veut dire, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les lésions sont vraiment cancéreuses, mais elles ne vont pas se développer. Donc, en fait, ce sont bien des lésions cancéreuses, mais il n'y aura pas de maladie cancer derrière. Et si on traite ça comme un cancer, on traite une femme qui aurait guéri de toute façon. On a bien sûr des taux de guérison qui sont très importants. Alors, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui l'emporte. Est-ce que c'est le risque de se faire traiter pour un cancer qu'on n'a pas, se faire enlever un sein, subir une radiothérapie, ou est-ce que c'est de mourir d'un cancer? Il faut mettre en balance les chiffres.
Ouais, Philippe Autier, il y a une étude australienne sur justement des autopsies qui a été menée sur des femmes et qui montre que justement, il y a beaucoup de femmes qui ont des cancers mais qui ne développent pas justement la maladie.
Absolument. Ce n'est pas d'ailleurs que pour le cancer du sein. Dans beaucoup d'organes, on découvre des cancers. À l'autopsie, donc, les personnes sont décédées pour une autre raison.
On regarde dans les organes. Ces femmes ne l'ont jamais su.
Absolument. Jamais su. On a la même chose avec le cancer de la prostate, on a la même chose avec le cancer de la thyroïde. C'est quelque chose d'extrêmement commun dans l'anatomie humaine. Alors évidemment, la conséquence de ce constat par les autopsies, c'est que au plus on va multiplier, disons, les examens de dépistage,
oui.
En plus on va trouver de tumeurs, de lésions qui ressemblent à des cancers, mais qui finalement n'évoluent jamais. Le risque de cela, c'est qu'on arrive à une certaine, pour employer un grand mot, une espèce de iatrogénèse, dans le sens que c'est la médecine, disons, qui induit un surtraitement, et ce surtraitement, évidemment, est néfaste pour le patient, personne n'y gagne.
Ouais.
Et de ce fait, on risque d'augmenter le nombre de patients traités pour des cancers qui, en fait, n'auraient jamais dû être traités pour des cancers.
Suzette Delaloge, qu'est-ce que vous répondez sur ce point précis, là, justement? C'est-à-dire que voilà, on a des cancers qui ne nécessiteraient pas forcément d'intervention.
C'est un vrai problème de santé
publique
générale.
C'est quand même un gros problème, ça, oui.
En fait, le problème n'est pas que pour la cancérologie. Je veux dire, on traite des tas de gens pour du cholestérol, c'est de la prévention, alors qu'ils n'auraient jamais eu de maladie cardiovasculaire derrière, ils n'auraient pas d'AVC. De la même façon, effectivement, on dépiste beaucoup de personnes qui ne vont pas avoir de cancer du sein. Et on dépiste parfois des cancers qui n'auraient jamais évolué ni tué la personne, en quelque sorte.
C'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Hein. Voilà. C'est vraiment pour cette question-là
notre
très
problème,
particulière.
C'est, effectivement, on a un dépistage qui n'est pas parfait. Il faut le rendre plus parfait. Le problème aujourd'hui, il faut quand même délivrer des bons messages. C'est-à-dire, on a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se voient diagnostiquer un petit cancer du sein et qui décident de ne pas se traiter à cause de tout ce qu'on dit dans les micros partout. Et en fait, personne ne peut reconnaître le cancer qui ne va pas évoluer. Et on voit aujourd'hui des tas de personnes qui laissent évoluer des cancers létaux et qui vont en mourir à cause de ça. Donc je pense qu'il faut faire super attention et ne pas dire, et vraiment informer les personnes, il y a un risque qui est pris si on ne traite pas un cancer. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de reconnaître les cancers les uns des autres. Donc aujourd'hui, pour moi, on n'est pas capable de jeter le dépistage tel qu'il est aujourd'hui, puisqu'on n'a rien de mieux à programmer et à proposer. Mais il faut absolument améliorer ça, puisqu'on ne peut pas rester sur un surdiagnostic tel qu'il est, des faux positifs tels qu'ils sont, etc.
Allez, je voudrais déjà vous poser une question de la part des auditeurs. Edith nous dit ceci, ma sœur et moi, on bénéficie d'un dépistage annuel parce que ma mère en a eu un en 1979. J'avais alors 22 ans, ma sœur 34. Après la lecture de plusieurs articles, écoute attentive des chroniques, discussions avec les radiologues et médecins, je ne parviens pas à me faire une réelle idée sur l'importance de continuer. Et je pense qu'il y a plein d'auditrices qui sont dans le même cas aujourd'hui, Dominique.
Qu'est-ce qu'on leur donne comme information? L'INCa, quand on lit sa notice, dit 99% des cancers du sein détectés à stade précoce guérissent à 5 ans. Enfin, sont guéris à 5 ans, ça paraît miraculeux, alors que 26% des cancers métastasés seulement ne sont pas évolutifs à 5 ans. Ça, c'est une façon de présenter les choses. Moi, je préfère une autre façon de présenter les choses qui est plus objective, qui est de dire sur 1000 femmes qui vont se prêter au dépistage régulièrement pendant la durée recommandée, c'est-à-dire 25 ans. Qu'est-ce qui va leur arriver? À partir de données centrales, vous avez vu tout à l'heure qu'il y a des débats entre les études, mais c'est pas la facteur 10, hein, c'est entre 10 et 40. Mais grosso modo, si on prend des données centrales telles qu'elles sont sorties de la concertation citoyenne dont on parlera tout à l'heure, donc une sorte de synthèse. Sur 1000 femmes donc, qui se prêtent à ce dépistage, il y en a 4 qui vont être sauvées par le dépistage. C'est-à-dire que si elles n'avaient pas fait le dépistage, elles seraient mortes de leur cancer du sein.
4 sur 1000.
4 sur 1000. Donc ça, c'est palpable. C'est pas beaucoup, mais c'est palpable. Vous en avez 12 qui avaient un cancer du sein que la mammographie ne va pas voir. Bon, ça marche pas tous les coups, un dépistage n'est pas forcément parfait, donc 12 dont le cancer n'a pas été détecté par la mammographie. Mais il y en a 13 qui vont être traités pour un cancer du sein, c'est-à-dire chirurgie, éventuellement rayon, alors que la lésion qu'on leur a trouvée n'aurait jamais donné de maladie. Donc 13 qui ont ça pour 4 qui sont sauvés. Je passe sur les 150 à qui on a fait des biopsies inquiétantes, qu'on a vraiment fait flipper, pour parler vulgairement, pour finir par leur dire, bon, finalement, c'était pas si grave que ça. Voici les chiffres. Alors, quand vous dites ça à des femmes, voilà de la formation qui est pertinente et qui, d'ailleurs, dans le cadre de la concertation citoyenne, a beaucoup plu aux femmes à qui on les donnait. Eh ben, vous vous décidez. Moi, quand je dis ça à des patientes, j'ai des patientes cancérophobes qui disent, oh, mais attendez, moi, je fais une mammographie systématique. Encore une fois, je parle bien des femmes qui n'ont pas de raison spécifique, parce que dans la question, l'auditrice,
là, c'était
elle,
sa mère
elle
qui
ne
était
dit pas à quel âge sa mère a fait un cancer du sein. Et donc, pour d'autres, c'est, ah bah dites donc docteur, je savais pas tout ça, moi franchement je ferais pas. Moi si j'étais une femme, je ne ferais pas de mammographie. Mais c'est pas pour autant que je dis à mes patientes de ne pas en faire. C'est un choix personnel avec des données pesées.
Allez, on y revient dans un instant. Beaucoup de messages pour vous sur le site de la Tête au Carré, franceinter.fr.
Je veux tes yeux. Que tes beaux yeux seulement en photo. Je veux les deux. Je veux les deux sans sentir ta peau. Connecté en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends. Qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux. Tes beaux yeux seulement en photo. Je veux les deux. Je veux les deux sans sentir ta peau. Un jour peut-être on se verra, mais pas tout de suite. Je préfère pas, je préfère l'illusion de t'avoir. J'ai espoir, mais t'invente pas trop d'histoires. Ok, je sais déjà. Si tu m'oublies, ça m'apprendra que je veux tes yeux. tes beaux yeux. Je veux tes yeux. Je veux tes yeux. Je veux tes yeux.
Angèle avec Je veux tes yeux à l'instant.
La tête au carré. Sur France Inter.
Ah, t'as vu, il y a quelque chose pour se faire dépister.
Ah ouais, viens, on y va.
Oui. Oh non, on m'a trouvé quelque chose.
Oh non.
C'est une fausse alerte. C'est-à-dire que vous allez devoir attendre le résultat d'autres examens complémentaires qu'on vous fera. Échographie, IRM, peut-être même une biopsie, et tout ça pour rien. Chez certaines femmes, les fausses alertes, en l'attente de résultats définitifs, provoque des angoisses prolongées pendant plusieurs mois et parfois de véritables dépressions.
Votre corps vous appartient. Vous pouvez dire oui ou non au dépistage par mammographie.
Voilà, c'était un spot de Cancer Rose en septembre 2016 pour évoquer le dépistage du cancer du sein cet après-midi avec mes invités dans la tête au carré, Suzette Delaloge, Philippe Autier, Dominique Dupay. Je vous voyais réagir, Suzette Delaloge, en écoutant ce spot. Qu'est-ce qui vous fait réagir, juste?
C'est n'importe quoi.
Ouais, mais pourquoi, dites-nous?
Mais c'est
pourquoi
totalement exagéré. C'est des messages qu'on entend. Totalement biaisé, hein. Je sais. Ouais. En fait, si le radiologue trouve une anomalie à la mammographie, il va faire l'écho tout de suite dans le dépistage organisé en France. On a cette chance. On va pas être comme dans certains pays, rappelés au bout de 3 semaines. Et il va vous rassurer dans l'immense majorité des cas immédiatement. Et si jamais il dépiste effectivement, dans 3% des cas, il y a quand même une anomalie qui nécessite plus d'examens, ouais, ils vont être faits rapidement. On va rarement faire une IRM et on va faire une biopsie. Elles sont faites assez facilement. Non, je ne veux pas dénier que c'est une situation angoissante, mais c'est... Ouais.
C'est moins long que ce qu'on nous laissait entendre dans ce message.
Nous,
Dominique Dupay, vous
n'êtes
pas d'accord du tout. Il n'est pas d'accord, votre voisin Dominique Dupay.
Alors attendez, entre le moment où on fait l'écho mammo inquiétante et le moment où la patiente bénéficie du résultat de l'analyse de la biopsie,
il s'écoule combien de temps?
Il peut y avoir 3 semaines. Enfin, c'est quand même fréquent. C'est 3 semaines d'angoisse absolue. Elle dorme plus. Non, ça, si c'était 3 jours, je veux bien, mais 3 semaines, c'est très courant. Et
Philippe Autier.
Oui, c'est un peu là, c'est là que le bas blesse. Il n'y a pas, disons, de mise au point tout à fait vraiment immédiate. Il y a toujours un délai. S'il y a des biopsies, il faut des délais, etc. Donc, ce qui veut dire pour beaucoup de ces femmes avec faux positifs, c'est vraiment très angoissant.
Chantal nous écrit et nous dit vrai ou faux cancer. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Comment les patientes peuvent réagir quand un médecin lui dit vous avez un vrai faux cancer? Cancer ou pas cancer? Est-ce que les médecins sont formés à l'annonce des messages? Tout ça, ça fout la trouille, Philippe Autier.
Oui, alors c'est normal que ça foute la trouille. Quand j'étais étudiant, il y a 30 ans, on ne connaissait pas le surdiagnostic. Donc actuellement, je dirais que le corps médical se trouve confronté à quelque chose de tout à fait nouveau. Alors je veux dire, la nouveauté est telle qu'actuellement, vous avez même un désir de reclassification d'un certain nombre de tumeurs du sein en quelque chose qu'on n'appellerait même plus cancer. C'est en tout cas une tendance aux États-Unis. Essayer de ne plus appeler cancer in situ le cancer, enlever le mot cancer. Donc, il y a une véritable prise de conscience qu'il y a là, de fait, un vrai problème quant à la façon d'informer les personnes. Mais alors là, je rejoins tout à fait Suzette Delaloge, et c'est là le gros, grand problème. C'est qu'une fois qu'on a détecté un cancer sous un microscope, on ne peut pas dire actuellement quel est le cancer qui va évoluer ou non. Et là, bon, de nouveau, j'abonde dans le sens qui a été dit. Il faut absolument, lorsqu'une dame a eu un cancer qui était trouvé par mammographie ou quoi que ce soit, elle doit se faire soigner.
Donc, on est d'accord là-dessus. Hein, le message est clair. On parle de l'étape avant la mammographie.
C'est avant la mammographie que les femmes devraient prendre une décision sur base d'une information objective.
Suzette Delaloge.
Oui, juste, en fait, on ne va jamais dire à quelqu'un qu'il a un vrai faux cancer. Ça serait monstrueux, ça serait un déni de sa maladie potentielle. On n'est pas capable de le dire, effectivement.
Et puis ça brouille complètement les messages.
C'est déjà arrivé, j'ai déjà rencontré des femmes qui s'étaient vues dire « mais votre cancer, c'est rien, mais c'est horrible ». Pour ces femmes, c'est horrible. Jamais on dira une chose pareille. Nous, on doit dire les choses telles qu'on les connaît. On leur dira « c'est un cancer à faible potentiel évolutif, vous avez des chances majeures de guérison ». Mais aujourd'hui, nous, on n'a pas d'autre choix que de vous proposer une chirurgie, éventuellement de la radiothérapie, parce que c'est un intracanalaire. Mais on ne va pas dire « c'est un vrai faux cancer », hein, ça serait monstrueux.
Alors, je ne dis pas qu'il faut dire aux femmes qu'elles ont un vrai faux cancer. Hein. Je dis simplement qu'il faut dire aux femmes que parmi les cancers qu'on est susceptible de leur trouver, il y a des vrais faux cancers et qu'elles ne pourront pas les différencier des vrais et que donc ça les expose à un surdiagnostic. Mmh. En parlant de surdiagnostic, brièvement, le cancer du col qui est étudié depuis longtemps, qui est un très bon dépistage, expose à 50% de surdiagnostic, c'est-à-dire que 50% des cancers localisés du col de l'utérus, si on fait un frottis 6 mois après, ont disparu. Personne ne le sait, mais c'est assez incroyable. Et donc, c'est pas gênant, parce que de toute façon, l'ablation de ce cancer, c'est un tout petit morceau de col et que ça n'a aucune conséquence. Et donc, on opère aussi bien, si je puis dire, les vrais faux que les faux cancers, mais ça n'a pas les conséquences que peuvent avoir l'ablation d'un sein. Donc, en fait, il y a toujours des faux positifs dans un dépistage. La question, c'est combien il coûte en termes de conséquences.
Valérie nous écrit, j'ai aujourd'hui 51 ans. Il y a 3 ans, mon gynéco m'a fait passer une mammo de contrôle sans signe de risque. Verdict, cancer hormonodépendant avec un ganglion touché. Je remercie infiniment mon gynécologue qui a eu la bonne idée de me faire passer une mammo. Serais-je en vie aujourd'hui sans ce contrôle? Suzette de la Loge.
Oui, elle serait en vie, mais effectivement, le cancer a été beaucoup plus évolutif, vraisemblablement, quoi, un envahissement ganglionnaire, effectivement. On peut pas en être sûr, bien évidemment.
Carole nous dit, un cancer du sein ne se voit pas automatiquement en passant une mammographie, mais en passant une échographie. Le diagnostic est quasi certain. Pourquoi est-ce qu'on oblige la mammo plutôt que l'échographie, Suzette de la Loge? Vrai ou pas, d'abord, sur cette affirmation?
Non, je suis désolée, c'est pas vrai. En fait, mais le meilleur examen reste la mammographie. Mm-hmm. L'écho est un examen de complément qui permet de caractériser et différencier les lésions qui ne sont pas des cancers bénignes, des cancers dans pas mal de cas. Mm-hmm. Mais l'écho seul est un très mauvais examen de dépistage. Là, pour le coup, on va dépister des tas de faux positifs, mais là, il y en aura 90%.
Il y a une très mauvaise information sur le sujet, parce qu'il y a beaucoup d'auditrices qui nous demandent pourquoi est-ce qu'on favorise la mammo plutôt que l'échographie. Oui. Ça revient beaucoup dans les
c'est
messages.
C'est moins douloureux, l'écho et tout, c'est sympa. Non, c'est
une Philippe.
Oui, si on devait remplacer la mammographie par l'échographie, le tableau serait beaucoup plus cataclysmique. Donc, l'échographie n'est pas un examen de dépistage. Il peut être un complément lorsque l'on voit une lésion à la mammographie pour de fait faire une idée de ce que peut être cette lésion, si c'est un kyste avec du liquide dedans, des choses comme cela. Mais ce n'est pas un examen de dépistage.
Valérie nous dit, j'écoute votre émission, le problème se pose de refaire pour moi une mammographie. J'en ai fait une au mois de septembre l'année dernière qui notait une modification au niveau de la calcification. Le radiologue a demandé un contrôle 4 mois après que je n'ai pas encore réalisé. Premièrement, j'avoue que j'ai la frousse et deuxièmement, j'ai entendu dire que faire des mammographies trop fréquemment provoque également des cancers du sein. Est-ce que l'acte lui-même de faire des mammographies provoque des cancers du sein, Suzette de la Loge?
Oui, en fait, il y a une augmentation du risque de cancer radio-induit si on fait beaucoup de mammographies pendant un temps long.
Oui.
Et on est à peu près probablement sur 1000 femmes qui vont faire des mammographies pendant 25 ans à un cancer radio-induit sur ces 1000 femmes.
Donc c'est peu.
C'est peu, mais c'est quand même, ça existe. Donc, effectivement, on va essayer de ne pas multiplier les mammographies. Mais effectivement, elle avait une image qui était classée à CR3. Aujourd'hui, le standard est de contrôler.
C'est peu ou c'est beaucoup? Le risque, il est important.
Encore une fois, on a vu qu'il y en a 4 sur 1000 qui ont été sauvés par le dépistage, et donc il y en aurait une sur 1000 qui serait tuée d'une certaine façon
par
le dépistage.
Qui
aurait un cancer lié au dépistage, ça serait sans doute, bien, tout à fait, qui serait guéri. Ça montre simplement qu'on joue sur des chiffres qui sont très faibles dans l'ensemble.
Donc, Philippe Autier.
Oui, donc à sujet des cancers radio-induits, ce qui est essentiel de savoir, c'est que c'est surtout la mammographie avant l'âge de 50 ans que vous avez ce problème du danger des rayons X sur le sein. Le sein, lorsqu'il est jeune et réagit beaucoup plus mal aux agressions par rayons X qu'après l'âge de 50 ans. C'est une des raisons les plus importantes pour éviter une mammographie de dépistage avant l'âge de 50 ans.
Annick nous dit, j'ai subi une ablation du sein en 2016, bien sûr, chimiothérapie, radiothérapie avec toutes les conséquences. En 2014, une grosseur au sein n'a pas été diagnostiquée faute de biopsie demandée par le radiologue et n'a pas été détectée par ADEMAS. Qu'est-ce que c'est qu'ADEMAS, Suzette de la Loge?
Une structure de gestion du dépistage organisé.
Voilà, j'ai donc attendu, dit Annick, 2 ans avec une grosse boule au sein et donc une mastectomie qui aurait pu être évitée.
Oui, ça arrive. En fait, comme on l'a signalé tout à l'heure, on a tous les cas de figure difficiles, bien sûr. Il peut arriver que la mammographie ne dépiste pas certains cancers, en particulier les cancers lobulaires du sein. Et donc la palpation est un élément important. Normalement, dans le dépistage organisé, il y a également une palpation, un examen clinique. On est le seul pays au monde qui est ça. Par le médecin, absolument. Qui aide. Mais le dépistage par mammographie n'est pas parfait. Il rate 16% de tous les cancers du sein. Il y a tous les éléments qu'on a donnés. Mais il reste le fait que ce qui a été prouvé, on ne l'a jamais dit depuis le début de cette émission, ce qui a été prouvé, c'est qu'il diminue en partie la mortalité par cancer.
Et là,
on voit bien que le rapport bénéfice-risque
se discute. Et vous n'êtes pas d'accord évidemment sur cette question-là,
non,
Philippe Autier.
Exactement, là, tout à fait en désaccord avec Madame Delaloche. Le dépistage par mammographie, actuellement, que les essais randomisés qui ont été faits essentiellement en Suède et qui ont montré des résultats suggérant une diminution de la mortalité par cancer du sein grâce à la mammographie, qu'on revoit ces essais randomisés à la lumière et qu'on les compare avec les essais randomisés qu'on a fait sur tous les autres cancers, on se rend compte que ces essais randomisés suédois ont été très mal traités au niveau statistique et sont très très différents, très très différents des autres.
Donc ça veut dire quoi par rapport à ce que
ça veut dire qu'en fait la mammographie de dépistage a un impact très très faible sur la mortalité par cancer du sein.
Dominique Dupin.
Oui, en fait, il y a des études de qualité variable, je dirais. Donc, suivant qu'on se fie à telle ou telle étude, on peut avoir des situations différentes. Ce qu'il faut retenir,
personnes qui nous écoutent, c'est terrible.
Ce qu'il faut retenir, c'est que si la mammographie sauve des vies, elle en sauve très très peu. Voilà, c'est tout, c'est ça la conclusion.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre les discussions et vous répondre aux messages des auditeurs franceinter.fr.
Mieux vaut ne penser rien que ne pas penser du tout. Rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien de tout. Comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous, évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous. Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous.
Ces petits riens, Stacy Kent à l'instant sur France Inter. Suzette Delaloche, Philippe Autier, Dominique Dupin pour ce débat, cette émission autour du cancer du sein et de son dépistage avec les messages des auditeurs, auditrices nombreuses sur le site de La Tête au Carré. Un mot, Dominique Dupin, sur ce rapport de concertation citoyenne de 2016, les résultats de ce rapport et ensuite les décisions prises par le ministère de la Santé.
Donc ça a été vraiment un panel extrêmement large, bien constitué par l'Institut National du Cancer lui-même à la demande de la ministre. Et la conclusion globale a été que les femmes tombaient des nues en disant « Mais attendez, faut nous dire ça, faut nous expliquer. » Parce qu'on découvre des choses qu'on savait pas.
C'est-à-dire, on découvre mais quoi?
On découvre qu'en fait, il y a très peu de bénéfices pour la mammographie de dépistage, que les inconvénients peuvent être assez sévères et sérieux. On découvre qu'il y a des cancers qui n'évoluent pas. On découvre qu'il y a des femmes qui sont traitées pour un cancer qui n'a pas évolué. Mmh. Ça, il faut expliquer ça aux femmes. Faut le dire. Quoi. On a le droit de savoir. Et le résultat, c'est le truc qui part, on sait pas où, et qui ressort totalement changé dans le discours de la ministre et de l'INCa, qui recommence à faire la promotion sans aucune explication pertinente.
Donc c'était Marisol Touraine.
Hein. Marisol Touraine, qui n'en a absolument pas tenu compte. Donc, les concertations citoyennes, on l'a vu pour les vaccins. Est-ce que ça sert? On ne sait pas à quoi ça sert, finalement. Ouais. Parce que si c'est pour s'asseoir complètement sur leurs recommandations, ça n'a pas d'intérêt.
Donc, un rapport très à charge, finalement, contre le dépistage ou pas?
Non, à charge sur l'information. Ouais.
Alors, Suzette Delaloche, sur ce point précis, qu'est-ce qu'on fait ensuite alors par rapport justement à ce qu'on dit aux patientes, parce qu'on voit bien qu'il y a tout un tas de questions qui mettent les patientes dans le flou absolu.
Je pense que l'information est cruciale, mais on voit bien que même entre nous, on a du mal à se mettre d'accord sur quelle information on délivre. Sur l'interprétation des données, moi je pense sincèrement que le dépistage évite un décès par cancer du sein sur 5 et qu'il y a des inconvénients mais qu'on peut peut-être essayer d'y pallier dans le futur.
C'est un chiffre qui provient d'où
de toutes les analyses des essais randomisés, leurs réanalyses par des tas d'équipes, etc. Je pense que les femmes doivent être informées, c'est difficile de les informer. L'information ne fait pas tout, qu'on fait le tabac, les gens n'arrêtent pas de fumer, on est bien d'accord. L'information éclairée,
Ça baisse, le tabac baisse en France.
Non, vraiment important. Je pense que c'est extrêmement important, effectivement. L'information éclairée aide beaucoup. Et en particulier, ça serait dommage que des femmes se détournent du dépistage alors qu'elles sont quand même relativement à risque et qu'elles auraient probablement un bénéfice qui serait bien plus que les 4 vies sauvées dont on a parlé. Parce qu'à l'échelle individuelle, les 4 vies sauvées, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que vous, si c'est votre vie, c'est bien ennuyeux. Voilà. Et que certaines, effectivement, qui sont à faible risque, pourraient peut-être ne pas faire de dépistage sans prendre aucun risque. Donc pour moi, le futur, c'est un dépistage beaucoup plus basé sur le risque, mais il faut que médicalement on doit prouver les choses et scientifiquement, c'est-à-dire montrer qu'un dépistage basé sur le risque a un sens, qu'on peut le faire, que ça ne stresse pas les gens de parler de risque, etc.
Ouais. Philippe Autier, au départ, vous étiez très favorable au dépistage et puis vous avez complètement changé de position face aux études scientifiques.
Tout en disant également que je suis très favorable au dépistage du cancer du col et du cancer colorectal. Il faut faire attention, je ne sais pas du tout.
Vous n'êtes pas contre le dépistage en général.
Non, c'est quelque chose qui peut fonctionner très bien.
Et Dominique Dupaille également.
Exactement, et très, très franchement, j'approuve très fort ce que Dr Suzette Delalage essaye de faire avec son étude sur les femmes maoris. Je crois qu'on va dans le bon sens.
Mais sur le cancer du sein, vous dites finalement beaucoup de perdantes, peu de vies sauvées.
Les inconvénients dépassent largement les peut-être quelques bénéfices, mais qui sont encore point d'interrogation. J'ouvre sur l'information aux femmes. L'information aux femmes, un peu comme la concertation citoyenne, ne doit pas être rédigée par des médecins. Elle ne doit pas être rédigée par des gens comme moi. Elle doit être rédigée par des gens qui sont totalement indépendants du dépistage, qui se réunissent et qui font eux qui rédigent cette information aux femmes. Donc des gens qui sont totalement neutres dans le système et qui peuvent, eux, faire une information parce qu'ils ne sont pas biaisés par leurs recherches interacadémiques et tout ce qu'on peut imaginer. Ça, c'est la chose qui est la plus urgente à faire, c'est cette information-là.
Comme le rapport sur la consultation.
Les Anglais l'ont très bien fait, ils ont même une version française de l'information anglaise qui est d'une qualité remarquable.
Nathalie demande qu'en est-il des femmes de plus de 80 ans qui sont traitées avec mépris et lassitude sur cette question ? Question d'auditrice, vous êtes de la loge.
Mépris, lassitude, j'espère que c'est... oui, il n'y a plus de dépistage de mammographie systématique proposée pour les femmes de plus de 80 ans. À titre individuel, en fait, c'est que les choses soient claires. Le problème chez les femmes de plus de 80 ans, c'est que certaines ont des problématiques médicales très largement vont prendre le pas et que par ailleurs on risque beaucoup d'avoir du surdiagnostic chez des femmes qui seraient pas embêtées. Donc je pense que le dépistage clinique est important et la mammographie chez certaines femmes peut avoir un sens à titre individuel.
Alors puisqu'il nous reste 3 minutes avant de nous quitter, comment on repense justement la prévention du cancer du sein ? Quel message là on va délivrer aux auditrices, en grande majorité qui nous écoutent sur cette question, Dominique Dupagne ?
Moi encore une fois, c'est trouver une source d'information qui vous permette de connaître les bénéfices et les risques du dépistage dans votre situation. Et à ce moment-là, faites-vous votre propre opinion et demandez à votre médecin de vous expliquer justement quels sont les avantages et les inconvénients de ce que vous allez faire.
Si vous êtes de la loge, vous êtes évidemment pour le dépistage. Vous dites que ça sauve des vies et il faut le faire.
Moi, je dirais pour l'instant, on a un certain nombre de preuves qui sont reconnues de façon internationale. N'oublions pas que nous ne sommes pas seuls au monde, mais que tous les pays occidentaux pratiquent le dépistage.
Il faut le faire tous les 2 ans. À partir de 50 ans,
L'interprétation est différente. Aux États-Unis, c'est annuel à partir de 40. Ouais. Certains pays, c'est 45 tous les 2 ans. Donc, c'est tous les 2 ans, a priori. Mm-hmm. Le dépistage tel qu'il est très imparfait, mais je pense qu'il sauve des vies. Que pour l'instant, à titre de santé publique, le rapport bénéfice-risque reste favorable. À titre individuel, ça peut se discuter. Et je pense qu'il faut s'orienter vers un dépistage basé sur les choix individuels. Je suis totalement d'accord. Mais ces choix doivent être éclairés. Et sur le risque individuel également. Et ça, on doit être capable de dispenser une évaluation du risque pour les personnes.
Philippe Autier.
Oui, là.
Message opposé pour vous ?
Non. Les choses ne sont pas blanches et noires. Déjà, si on pouvait avoir une information correcte aux femmes, pas de la propagande, comme on a vu trop ces dernières années. Mais une information correcte, rédigée par des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêt, comme on dit, ce serait déjà un plus énorme. Les femmes peuvent faire un choix. Ça, c'est important. La deuxième chose, je crois que des démarches comme celle de la loge pour cibler le dépistage sur les femmes à plus haut risque, c'est également quelque chose qui peut susceptible de le rendre plus efficient. Donc, c'est on va dans le bon sens. Maintenant, j'espère que d'autres techniques que la mammographie arriveront et qui vont véritablement faire la grosse différence. Ouais. Mais il faut encore cette technique.
Suzanne de la loge, le dépistage vraiment personnalisé, ça c'est une voie très importante sur laquelle vous travaillez en quelques secondes.
En fait, nous avons eu la chance d'avoir un gros financement européen. La France est leader sur une grosse étude qui va comparer le dépistage standard à personnalisé dans 5 pays européens. Ça va commencer à la fin de l'année. Mm-hmm. Je remercie d'avance les femmes qui vont bien vouloir participer parce qu'en 4 ans, on pourra avoir la réponse et savoir si évaluer le risque à titre individuel, c'est quelque chose qui est faisable, qui est gérable. Est-ce que l'information est bien claire et est-ce que ça permet effectivement de sauver plus de vies, d'éviter du surdiagnostic et
vous
et
cherchez des volontaires
Très bientôt, nous allons en chercher.
Ah ben, profitez-en.
Les femmes de 40 à 70 ans.
Ah ben, on vous passera les messages. Alors, merci beaucoup. Merci à tous les trois, en tout cas, et merci aux auditeurs nombreux, auditrices, pour ces messages arrivés pendant l'émission.
La science grand format, en partenariat avec France 5.
Voilà, tout autre sujet ce soir, voyage dans l'Égypte ancienne à 20h50. Bonjour Perrine Poubeau.
Bonjour Mathieu.
Avec un premier documentaire sur la cité perdue de Ramsès II.
Oui Mathieu, dans notre enquête de ce soir, le personnage central sera Ramsès II. Le pharaon est monté sur le trône en 1279 avant notre ère. Et il est reconnu aujourd'hui comme l'un des plus grands souverain d'Égypte. En plus d'avoir eu une centaine d'enfants de ses différentes épouses et concubines, il reste dans l'histoire comme un grand bâtisseur. On lui doit des projets grandioses, comme par exemple le temple funéraire de Louxor.
Alors comment les scientifiques Perrine ont eu connaissance de cette cité royale aujourd'hui disparue qui fait l'objet de ce documentaire ?
En fait, c'est par plusieurs textes anciens qui font référence à une ville immense, somptueuse. Ramsès II l'aurait construite pour en faire la nouvelle capitale de son empire et l'aurait baptisée Pi-Ramsès, la maison de Ramsès. Et pourtant, son existence, sa localisation ont longtemps intrigué les archéologues. Ces textes anciens dont je parlais décrivent la cité royale comme une garnison militaire où s'élevaient des temples magnifiques. Mais elle aurait disparu à peine 200 ans après la mort du pharaon. Dans un premier temps, une équipe d'archéologues autrichiens a réussi à localiser la ville sur un des bras du Nil aujourd'hui ensablé, autour du village de Kantir. Et ensuite, cette localisation a été confirmée par la découverte d'un très grand site qui abritait des chevaux et des soldats.
Et cette base militaire serait-elle la légendaire capitale de Ramsès II ? Bien, c'est là qu'intervient justement la technologie de prospection magnétique, extrait du documentaire.
En 1996, le docteur Pouch et son équipe commencent une prospection magnétique de la région pour voir ce qui se cache sous le sol.
Équipés de magnétomètres, nous avons balayé une surface d'environ 2 km². La prospection magnétique présente deux principaux avantages. Premièrement, c'est une méthode non destructrice comparée aux fouilles archéologiques. Et deuxièmement, elle permet de couvrir en une journée une zone qui prendrait au moins 8 à 10 ans à exhumer.
Les résultats sont stupéfiants.
Voilà, grosse émotion pour Edgar Pouch, Perrine, qu'on entendait il y a un instant.
Oui, c'est un moment extrêmement fort pour lui parce que ce balayage au magnétomètre lui apporte des preuves extraordinaires. Sous le sol de Kantir apparaît le plan d'une des plus grandes cités du Moyen-Orient avec des temples, des palais, des villas qui abritaient probablement plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Donc pour Edgar Pouch, Pi-Ramsès restera la découverte d'une vie.
Voilà, c'est le documentaire donc de ce soir, à voir à 20h50 dans Science Grand Format sur France 5. Merci beaucoup Perrine Poubeau, bonne journée.
Merci Mathieu.